Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens tenaient leurs assises nationales ce week-end.
Réenchantons le travail, fleuris là où Dieu t'a planté. Tel était le thème des assises nationales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Du 15 au 17 mars, c'était à Bordeaux. Le président des EDC Midi-Pyrénées nous en présente le bilan. Bonjour Bastien tout le monde.
Bonjour Isabelle.
Réenchantons le travail, ce titre a un petit air de promesse de campagne, je trouve. En quoi, Bastien tout le monde, le travail a-t-il besoin d'être réenchanté ?
Alors, bonjour à tous ceux qui nous écoutent déjà. On l'a tous vécu dans nos, et on le vit toujours dans nos vies professionnelles et personnelles. Nous aspirons à avoir un travail qui nous fait du bien et nos collaborateurs aspirent à avoir un travail qui nous fait du bien. Toute la question est de savoir comment nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous pouvons y contribuer pour nous-mêmes et pour nos collaborateurs.
Et ça passe par quoi ? Alors, ce travail qui nous fait du bien, quels sont les leviers ?
Alors, peut-être avant d'aborder les leviers, c'est intéressant de commencer par se demander c'est quoi le travail.
Ah, alors, ça c'est une grande question.
L'approche qu'on peut avoir, c'est de se dire que le travail est une action qui doit avoir une utilité, une finalité. C'est une action qui doit être tournée vers autrui. Elle ne peut pas concerner que nous-mêmes. Quand je me brosse les dents le matin, je ne travaille pas. Quand je me coupe les cheveux, je ne travaille pas. Par contre, quand je coupe les cheveux de quelqu'un, là, je travaille. Et le travail nécessite un effort. Il y a une mise en mouvement, on crée quelque chose, on transforme quelque chose. Voilà, il faut qu'il y ait cette notion d'effort. Donc, une utilité, être tourné vers autrui et cette notion d'effort. Donc, la question après, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut redonner un sens positif au travail pour chacun ? Il y a plusieurs leviers qui peuvent être abordés et on a entre autres eu le témoignage du général Pierre de Villiers, qui est l'ancien chef d'état-major des armées, qui, dans l'approche militaire, a énormément besoin de donner ce sens au travail, ce réenchantement du travail ou cet enchantement du travail, parce que dans le monde de l'armée, ils sont un peu dans cet extrême où... il faut que des individus, des hommes et des femmes, soient prêts à aller jusqu'au don extrême d'eux-mêmes pour une raison, pour cette fameuse finalité que j'évoquais. Donc c'est un des aspects, un des angles qu'on peut aborder, c'est de dire ne cherchons pas à optimiser le bonheur individuel de chacun dans son activité professionnelle, mais cherchons d'abord à lui redonner un sublime, quelque chose... qui lui donne envie d'aller au bout de lui-même.
Alors, par exemple, une initiative qui pourrait être d'installer une table de ping-pong au travail, finalement, ça ne va pas forcément réenchanter le travail, ça ne va pas lui donner du sens.
Alors, effectivement, on peut... Alors, je ne dis pas que c'est mal de le faire. Ça peut être très bien, ça peut être très agréable, ça peut avoir une utilité. Oui. Mais on ne pense pas, enfin, je ne pense pas, et ce n'est pas ce qu'on a entendu pendant les quelques jours d'échange, que c'est ça qui va permettre... aux collègues, aux salariés, de s'épanouir dans le travail, de faire du monde du travail un monde qui les enchante. Par contre, si vous prenez l'exemple de la table de ping-pong, un des aspects sur lesquels on a pu échanger ensemble, c'est que le travail a fondamentalement une dimension collective. C'est-à-dire qu'on va s'épanouir dans le travail parce qu'on va être en relation avec les autres. L'homme est un animal social, il a besoin d'être avec les autres. Et c'est dans cette dimension collective du travail qu'on s'épanouit le plus. Donc on pourrait regarder l'exemple du baby-foot, non pas comme un loisir ou une détente d'un moment donné individuel, mais comme une occasion de faire équipe.
Une façon d'être en interaction uns avec les autres. Oui, oui. Un autre thème, une autre thématique de ces assises nationales des EDC était fleuri là où Dieu t'a planté. Ça fait sans doute référence aux talents que chacun est amené à découvrir afin de les mettre en œuvre dans son travail. Comment un dirigeant valorise-t-il concrètement les talents de ses collaborateurs ?
Alors là, il y a une approche intéressante de ce sujet-là. On peut le prendre au premier degré. Qui est de se dire comment je suis capable d'identifier le talent particulier de chacun de mes collaborateurs pour l'amener à s'engager là où il est bon, là où il a envie, plutôt que de l'amener à travailler sur un sujet qu'il n'aime pas et qui fera de fait moins bien. Et finalement, la discussion a tourné autour d'un autre sujet qui lui est connexe. C'est de se dire, quand vous regardez la vie d'un homme ou d'une femme, faites le calcul, il passe 10-12% de son temps au travail. Donc, utilisons nos talents au travail, oui, mais n'oublions pas que chacun d'entre nous est pour 90% du reste de sa vie à faire autre chose. Alors, à dormir, à manger, mais aussi à s'occuper de sa famille, mais aussi à s'occuper de la vie de la société dans laquelle il est engagé, mais aussi de s'occuper de lui-même. Donc, c'est amener aussi chacun de nos collaborateurs à prendre soin de ses autres dimensions de sa vie pour aussi y être bien. Et comme chacun de nous est quelque part une pièce avec plusieurs facettes, hein, si un côté de la face va bien, on a de bonnes chances que l'autre côté de la face aille bien aussi.
Est-ce que ça veut dire que le dirigeant aurait ce regard sur les activités connexes ou la vie à côté du travail de chacun de ses collaborateurs?
Oui, c'est ça. C'est regarder une chacun attention. De ses collaborateurs dans sa globalité. Et le considérer comme un être humain, créature de Dieu qu'on cherche à aimer, et non pas comme un outil au service de l'entreprise. L'expression des ressources humaines est revenue dans les débats. Est-ce que le salarié est une ressource humaine
comme
pour l'entreprise?
On peut
discuter du terme. Donc amener chacun à être pleinement lui-même dans sa globalité, c'est effectivement une des pistes qu'on s'est données pour enchanter le travail.
Alors, il faudra trouver les moyens aussi pour parvenir à ce réenchantement et parvenir à valoriser les talents de chacun. La recherche des talents et leur mise en action ne doit pas occulter la question de la formation du dirigeant. Et c'est peut-être là qu'on arrive sur ces fameux leviers d'efficacité. Dans quelle mesure cette formation peut être un levier d'efficacité pour le dirigeant?
Alors, on a un outil super simple et super efficace aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est ce qu'on appelait l'application de la PC, la pensée sociale chrétienne, qui est la version œcuménique de la doctrine sociale de l'Église. Et on a pu encore une fois faire le constat que cet outil est formidable en ce que, quand on regarde les aspirations de la société aujourd'hui et quelque part les modes dans nos entreprises, on est très directement dans l'application opérationnelle de la pensée sociale chrétienne. Ce qui nous fait donc penser que la formation du dirigeant, pour nous chrétiens, doit commencer par ce socle, qui est la formation à la pensée sociale chrétienne, qui va nous éclairer, qui va nous donner des outils pour traduire dans notre vie d'entreprise les principes de subsidiarité, les principes de destination universelle des biens, qui trouvent finalement très très facilement, quand ils regardent de près, leur traduction concrète dans ce qui est attendu de nous en entreprise.
Vous pourriez nous donner un exemple?
Oui, et je vais prendre l'exemple le plus compliqué, c'est celui de la subsidiarité.
Oui.
La subsidiarité, c'est, si on essaie de le dire avec des mots simples, le fait d'amener à ce que chacune des actions, chacune des décisions soit prise, soit faite par le plus petit niveau de responsabilité qu'il puisse être dans l'entreprise. Donc c'est ce qui amène finalement chacun de nos collaborateurs à être l'instrument de Dieu dans la co-création. On pense que un des rôles de l'homme sur Terre et du salarié dans l'entreprise, c'est de créer le monde avec Dieu, et Dieu nous y appelle, hein, on le trouve dans la Genèse. Donc c'est rendre cette possibilité-là à chacun de nos collaborateurs.
Et c'est une forme de responsabilité.
Et c'est une responsabilité énorme. Et un des talents nécessaires du dirigeant ou de l'entrepreneur dans cet exercice-là est de réussir à savoir quel niveau de responsabilité je peux donner à chacun de mes collaborateurs pour qu'ils soient le plus pleinement possible, si vous permettez l'expression, co-créateur de l'œuvre de Dieu, mais sans aller trop loin, c'est-à-dire sans le mettre en difficulté, à la fois vis-à-vis de lui-même et pour l'entreprise.
Et pour cela, vous disposez d'éléments pour placer le curseur au bon endroit?
Alors malheureusement, je ne connais pas de recette magique là-dessus.
Ouais.
Si ce n'est un principe simple, mais qui n'a rien une recette, c'est que le dirigeant ou l'entrepreneur sont... Une de ses principales responsabilités, c'est d'écouter. c'est d'être en proximité vraie de ses collaborateurs. Sinon, il n'a aucune chance de trouver cette bonne position de curseur, puisqu'il ne connaîtra pas suffisamment la personne en question.
Voilà.
J'avais un exemple. Un de mes chefs me disait un jour, s'il y a un drame familial chez un de tes collaborateurs et que tu ne le sais pas, c'est que tu as raté quelque chose.
Oui, l'écoute, grande qualité qui est évidemment indispensable non seulement en entreprise, mais tout autour. Patient tout le monde, vous avez suivi un atelier pour le moins original pendant ces assises nationales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'était sur la question du pardon. Est-ce qu'il est possible en entreprise? Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Alors, c'est un sujet super compliqué,
oui.
et qui touche à la fois la sphère professionnelle, mais aussi la sphère personnelle.
L'intime. Hein.
Je crois que le temps nous est compté, donc je vais aller vite. Les idées qu'on a pu développer sont les suivantes. C'est de dire que le pardon est indissociable de la souffrance. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait souffrance.
Une blessure.
Et le pardon vise à quelque part permettre que cette souffrance soit la mieux acceptée possible. Et là, on essaie d'avoir un regard différent, c'est de dire le pardon, quand je le donne, ça n'empêche pas la souffrance d'exister, mais quand je le donne, on peut penser d'abord qu'on le donne à quelqu'un, on le donne pour quelqu'un. L'idée qu'on a développée ensemble, c'est de dire que quand on donne le pardon, c'est d'abord pour nous-mêmes. C'est-à-dire que le fait de donner le pardon nous permet d'éviter ou de limiter cette souffrance, ne pas rester avec ça. Donc bien considérer que quand on donne le pardon, on le fait autant pour nous-mêmes que pour la personne à laquelle on s'adresse.
Mmh. Et concrètement, comment ça peut se vivre en entreprise?
Alors, ce qu'on se dit, c'est que ça suppose beaucoup d'humilité, et ça suppose d'abord d'être capable de reconnaître qu'on souffre. Et en entreprise, ce n'est pas évident du tout d'admettre qu'on est en souffrance. Donc c'est d'abord un chemin sur soi-même.
Un chemin sur soi-même. La dernière enquête Great Insight 2024 fait émerger trois préoccupations majeures pour les salariés: la quête de sens, la quête de bien-être et de flexibilité au travail. Comment ces nouvelles aspirations peuvent-elles trouver une réponse aujourd'hui dans les entreprises?
Alors, ce qu'on a pu se dire, c'est que toutes les entreprises le cherchent, et l'État nous accompagne aussi pour orienter la dynamique des entreprises dans ce sens-là. Et on a eu l'occasion d'échanger avec la personne qui a contribué au rapport Nota Sénart, qui a défini ce qu'était une raison d'être en entreprise et le principe de l'entreprise à mission auquel l'État nous invite. Donc c'est essayer d'inviter les entreprises à, en écho à ce qu'on se disait tout à l'heure, ne pas se focaliser que sur son objet de production, mais se focaliser sur le rôle qu'elle a dans la société, et finalement de dépasser la rentabilité qu'on cherche dans nos entreprises, en disant, et j'ai bien aimé sa formulation, que la rentabilité n'est pas une fin en soi, mais c'est un test de la faisabilité de la mission à laquelle on est appelé.
Vous n'aurez pas le temps malheureusement de nous expliquer ça, mais c'est une belle formule à méditer. Merci beaucoup Bastien Tout le Monde, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous étiez ce matin sur Radio Présence pour nous faire ce petit bilan de ces assises nationales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci beaucoup.
Merci Isabelle.